bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à toutes et tous. Trois avocats ont déposé plainte devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU face à l'inaction française pour rapatrier les enfants de djihadistes, disent-ils. Notre envoyé spécial est à la frontière irako-syrienne en ce moment. Il nous dressera le portrait d'une femme qui a vécu sous l'autorité du groupe État islamique en Syrie. Dans ce journal, nous nous intéresserons aux Philippines où le président Duterte n'hésite pas à tuer ceux qui luttent pour défendre les droits de l'homme dans le pays. Un rapport publié hier est accablant. Et puis vous entendrez le ministre de la culture, Franck Riester. Il était hier à Milan avec son homologue italien pour résoudre la querelle autour des œuvres picturales de Léonard de Vinci. Un accord sera trouvé, dit-il à France Culture. Et l'on commence donc par ce reportage qui nous vient d'un camp au Kurdistan irakien. À quelques kilomètres de là, des milliers de civils syriens continuent de fuir la région de Baghouz en Syrie, dernière poche du groupe État islamique situé près de la frontière irakienne. Parmi ces civils, des familles de djihadistes, mais aussi d'anciennes esclaves yézidis de Daesh. Elles tentent de se reconstruire en Irak, dans les camps du Kurdistan irakien. Un retour difficile que certaines supportent difficilement, car elles ont été convertis à l'islam parfois de force et semblent maintenant souffrir d'un syndrome de Stockholm qui leur ferait regretter leur bourreau. C'est un reportage de Mathieu Mondoloni.
Il y a un mois maintenant que Zena, yézidi de 29 ans, a quitté la région de Baghouz. Mais ce n'est pas l'État islamique qu'elle a voulu fuir, ce sont les bombardements de la coalition anti-djihadiste. Elle dit qu'elle aurait préféré rester, que la vie sous Daesh n'était pas si dure.
C'était bien, au début j'étais la bonne, je travaillais, mais après je n'avais plus le statut d'esclave. Les djihadistes m'ont donné les mêmes droits que les autres. Je me suis mariée, je ne travaillais plus pour les autres, j'avais ma propre maison.
Elle jure que si elle retrouve son mari, lui aussi converti, elle le rejoindra. Où qu'il soit, elle ne garde en mémoire que les bons souvenirs, elle occulte les mauvais. Et pourtant, ils sont nombreux, raconte Dounia de l'ONG Elisker, à qui Zena s'est confiée lors de son arrivée dans le camp.
Elle a souffert au début quand elle était esclave. Elle a été vendue deux fois, il y avait la prière obligatoire, les leçons sur le Coran, l'obligation de se convertir. Et surtout, elle était torturée par les djihadistes et par leurs femmes qui la frappaient avec des bâtons, lui donnaient des gifles et des coups. Mais après le mariage, elle a tout oublié. Et maintenant, elle dit que sa vie sous Daesh était bien.
Repoussées par leur famille car converties, ces femmes regrettent leur vie dans le califat. Elles sont imprégnées par l'idéologie de l'État islamique. Un État désormais moribond, mais qui, à travers elles, ne demande qu'à renaître.
Un reportage de Mathieu Mondoloni avec Eric Audra à la frontière irako-syrienne. La Syrie et Baghouz encore, où a été tué le djihadiste français Fabien Klein. Hier soir, la coalition anti-Daesh dirigée par les États-Unis a confirmé cette information. Fabien Klein avait mis sa voix sur la revendication des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis. En Israël, la perspective de poursuite judiciaire contre le Premier ministre semble de plus en plus concrète. Le procureur général a l'intention d'inculper Benjamin Netanyahou pour des faits de corruption, d'abus de confiance et de fraude. Mais il laisse avant cela la possibilité au Premier ministre de s'expliquer devant lui. Benjamin Netanyahou dénonce une chasse aux sorcières alors que les élections législatives anticipées ont lieu dans 40 jours en Israël. La guerre du président philippin Rodrigo Duterte contre les défenseurs des droits de l'homme est de plus en plus meurtrière. C'est ce que prouve le rapport que viennent de publier l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, la FIDH, ainsi que l'Organisation mondiale contre la torture. Leur rapport démontre une dégradation spectaculaire aux Philippines depuis 2016. Preuve à l'appui, Nadine Epstein.
Il y a moins de deux mois, Randy Félix Malayao était abattu par un inconnu dans un autobus qui le ramenait chez lui dans la province d'Isabela, au nord de l'archipel. Malayao, défenseur des droits humains, était consultant de la paix du Front National Démocratique des Philippines dans les négociations avec le gouvernement. Il avait été porte-parole pendant les négociations en Europe en 2016. En février 2018, comme 650 autres personnes, le militant politique avait été accusé de terrorisme et placé sur une liste noire du ministère de la Justice. Puis en janvier de cette année, le tribunal régional de Manille avait annulé cette sanction. Trop tard, trois semaines après, Randy Félix Malayao était tué de sang-froid. Son meurtre grossit le nombre d'agressions, d'assassinats et d'exécutions extrajudiciaires en augmentation continue depuis l'arrivée à la présidence de Rodrigo Duterte. Dans leur dernier rapport, trois ONG établissent qu'au moins 8 militants des droits des travailleurs, 76 défenseurs de l'environnement et 12 journalistes ont été assassinés entre juillet 2016 et novembre 2018. Il y a aussi des juges, des avocats, des représentants de communautés indigènes qui sont victimes. Comme cette sénatrice, Laila de Lima, détenue sans procès depuis 2 ans pour des charges montées de toutes pièces. Rares sont les poursuites qui mènent à un procès. L'impunité, l'abus de pouvoir et la corruption prévalent. Sans oublier les disparitions forcées de centaines de Philippins. C'est pourquoi la Cour pénale internationale a ouvert un examen préliminaire sur cette guerre contre la drogue menée par le président Philippin.
Les opposants à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika en Algérie se mobilisent à nouveau ce vendredi. Des manifestations sont prévues dans plusieurs villes du pays. Hier, une dizaine de journalistes ont été détenus durant plusieurs heures avant d'être libérés. Le président de la République sera face à des élus de Gironde ce matin. Un échange qui s'inscrit dans le cadre du grand débat national. Avant cela, aux alentours de 8h45, Emmanuel Macron doit petit déjeuner avec Alain Juppé, maire de Bordeaux, jusqu'à ce vendredi, avant de rejoindre le Conseil constitutionnel. Notez par ailleurs qu'hier soir, Emmanuel Macron s'est déjà invité à un débat citoyen, un débat de femmes organisé à Pessac près de Bordeaux. Prise à partie par l'une d'elles qui voulait lui offrir un collier en forme de gilet jaune, le chef de l'État a refusé. Il a préféré mettre en avant les réponses apportées par l'exécutif depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Un nouvel accord sera négocié entre les musées italiens et français à propos de la collection d'œuvres de Léonard de Vinci. La sous-secrétaire d'État à la culture italienne, membre du parti d'extrême droite au pouvoir, avait en fin d'année dernière estimé que Léonard de Vinci devait rester en Italie, ses œuvres également, et ne pas être exposées toutes au Louvre à l'automne prochain pour les 500 ans de la mort du peintre. Hier, le ministre français Franck Riester a rencontré son homologue à Milan jouant l'apaisement. Franck Riester s'en est expliqué au téléphone de Cécile de Kervas-Doué.
La culture, ça rassemble. Ça rassemble des gens qui parfois s'opposent sur tout. Et donc, on va essayer de démontrer, là, avec mon homologue, en tout cas, c'est ce qu'on a décidé, de travailler à démontrer à ce que, effectivement, une fois de plus, la culture rassemble nos deux peuples, qui sont des peuples amis, pour, encore une fois, au service de l'exposition de ces œuvres au public le plus large. Alors, il n'y aura peut-être pas toutes les œuvres que l'Italie souhaite avoir, que la France souhaite avoir. Et on va regarder très concrètement ce qui est possible de faire et on fera le maximum pour que les prêts puissent être réalisés. Mais il n'y a absolument pas eu de dimension pécuniaire à nos discussions. On était vraiment sur de la technique, du scientifique, capacité à transporter. Et on sait bien qu'il y a des techniques sur tel ou tel support qui font que ces œuvres sont plus fragiles, donc ne peuvent pas être transportées. Capacité à être disponible aussi, tout simplement, parce qu'après, il y a toute une grande saison culturelle 2019 en Italie autour de Léonard et en 2020 autour de Raphaël en France. Donc il y a forcément des moments où les tableaux ne seront pas forcément disponibles. Donc c'est tout ça qu'on va mettre noir sur blanc sur la table dans l'intérêt de la mise en valeur de grands artistes et de leurs œuvres que sont Léonard et Raphaël.
Le ministre de la Culture, Franck Riester, joint par Cécile de Kervas-Doué. Il était le dernier survivant du massacre de Tulle en 1944. Jean Viacroze est décédé à l'âge de 104 ans cette semaine. Le 9 juin 1944, un jour avant Oradour-sur-Glane, il avait vécu la tuerie de masse à Tulle, des otages pendus par dizaines dans les rues de la ville. Il a ensuite vécu l'enfer des camps de la mort. L'historien de la résistance Fabrice Grenard l'avait rencontré et il avait écouté son récit dans les camps.
L'histoire de Jean Villacreuse, c'est aussi l'histoire terrible d'un déporté, puisque s'il a échappé donc aux pendaisons, au massacre du 9 juin, il a fait partie en revanche des 149 tullistes qui ont été déportés vers l'Allemagne. Et Jean Villacreuse a vécu au cours de cette déportation l'enfer. Il a fait partie d'un train de sinistre mémoire qui est parti de Compiègne début juillet, surnommé le train de la mort, parce que sur les 2500 déportés, il y en a plus de 1000 qui sont morts au cours du transport. Et Jean Villacreuse était dans un wagon où il faisait partie seulement des 5 survivants à l'arrivée au camp de Dachau. Il a fait l'objet de plusieurs expériences médicales. Il a été opéré à vif même. Il a survécu à tout ça. Et voilà, c'est le dernier témoin qui s'en va. Et il va falloir trouver un moyen maintenant de continuer à ce que leur témoignage soit toujours diffusé et à ce que leur message aussi aux jeunes générations puisse toujours être transmis.
L'historien Fabrice Grenard, auteur du livre « Tulle, enquête sur un massacre », il répondait à Roméo Van Maastricht. La perturbation pluvieuse se dirige vers le nord-est du pays ce matin avec un ciel bien chargé. Ailleurs, la matinée sera grise, puis ensoleillée sur le sud de la France. Comptez ce matin 8 degrés à Lille et à Besançon, 10 à Paris et à Nantes, 11 degrés dans la matinée à Bordeaux et Lyon, jusqu'à 15 degrés la maximale, ce sera à Marseille et à Bastia.